6. Brady s'extirpe de ses souvenirs, une rêverie si profonde qu'on dirait de l'hypnose, pour s'apercevoir qu'il a les genoux couverts de plastique déchiqueté. D'abord, il ne sait pas d'où ça vient, puis il voit le journal sur son établi et comprend qu'il a déchiré l'emballage plastique avec ses ongles pendant qu'il pensait à Frankie. Il jette les bouts de plastique à la poubelle, ramasse le journal et lit les gros titres d'un air absent. Du pétrole se déverse toujours dans le golfe du Mexique, et les représentants de British Petroleum clament qu'ils font de leur mieux, alors que le public ne cesse de les dénigrer. Nidal Hassan, le connard de psy qui a criblé de balles la base militaire de Fort Hood au Texas, sera déféré devant la justice dans les prochains jours. « T'aurais dû prendre une Mercedes, Nidal chéri », pense Brady. Paul McCartney, l'ancien Beatles que la mère de Brady appelait « Regard de vieille épagneule », reçoit une médaille à la Maison-Blanche. Pourquoi, se demande parfois Brady, est-ce qu'il faut que les moins talentueux raflent toujours tout? C'est juste une preuve de plus que le monde va mal. Brady décide d'emporter le journal à la cuisine et de lire la rubrique politique. Ça, plus une pastille de mélatonine, devrait suffire à le faire dormir. À mi-chemin dans les escaliers, il retourne le journal pour voir ce qu'il y a sous la pliure et se fige. Il y a deux photos de femmes, l'une à côté de l'autre. L'une est Olivia Triloné. L'autre est bien plus vieille, mais la ressemblance ne trompe pas. Surtout ses lèvres minces de pétasse. « Décès de la mère d'Olivia Triloné », dit le titre. Et en dessous, révoltée par le traitement indécent réservé à sa fille, elle avait dénoncé la couverture médiatique qui, selon elle, avait détruit sa vie. Suivent deux paragraphes de diatribe. En réalité, une simple excuse pour faire remonter la tragédie de l'an passé, si le mot « tragédie » vous plaît, songe Brady sarcastique, en première page d'un journal lentement asphyxié par Internet. Les lecteurs sont priés de se rendre à la rubrique nécrologique page 26. Et Brady, maintenant assis à la table de la cuisine, ne perd pas une seconde. Le nuage d'effroyable consternation qui l'entourait depuis que sa mère est morte a été balayé en un instant. Son cerveau tourne à plein régime, assailli d'idées se rassemblant comme les pièces d'un puzzle, volant en éclats, puis se rassemblant à nouveau. Ce processus lui est familier, et il sait que ça va continuer ainsi jusqu'à ce que la connexion ultime se fasse et qu'une image claire et précise apparaisse. Elizabeth Siroys Wharton, 87 ans, est décédée dans son sommeil le 29 mai 2010 à l'hôpital de Warsaw County. Née le 19 janvier 1923, fille de Marcel et Catherine Siroys, Elizabeth laisse un frère, Henry Siroys, une sœur, Charlotte Gibney, une nièce, Holly Gibney, et sa deuxième fille, Janelle Patterson. Elle rejoint son mari, Alvin Wharton, et sa fille bien-aimée, Olivia Triloné. La présentation du corps aura lieu mardi 1er juin de 10h à 13h aux pompes funèbres Soames, et sera suivie d'une cérémonie d'hommage à la défunte, mercredi 2 juin, à 10h, au même endroit. Un buffet pour les amis proches et la famille sera servi au 729 Lilac Drive, à Sugar Heights. La famille ne souhaite recevoir aucune fleur, mais invite plutôt à faire des dons à la Croix-Rouge américaine ou à l'Armée du Salut, association humanitaire favorite d'Elizabeth Wharton. Brady lit tout ça très attentivement, avec quelques questions en tête. Est-ce que le gros flic sera à la présentation du corps, à la cérémonie d'hommage à la défunte mercredi, au buffet? Brady parie qu'il sera présent aux trois, guettant le criminel, le guettant, lui, parce que c'est le boulot d'un flic. Il se souvient du dernier message qu'il a envoyé à Hodges, ce bon vieil offrette. Il sourit maintenant et dit tout haut, « Tu me verras pas arriver. Assure-toi que non. » rétorque Deborah Ann Hartsfield. Il sait qu'elle n'est pas vraiment là, mais il la voit presque, assise en face de lui, dans sa jupe crayon noir et le chemisier bleu qu'il affectionne tout particulièrement. Celui qui est si transparent qu'on peut voir le fantôme de son soutien-gorge au travers.
« Parce qu'il sera sur le qui-vive. »«
Je sais, » dit Brady. « T'inquiète pas. »«
Bien sûr que je m'inquiéterai. Je peux pas m'en empêcher. « T'es mon lapin à moi. »
Il retourne au sous-sol et se glisse dans son sac de couchage. Le matelas gonflable siffle. La dernière chose qu'il fait avant d'éteindre les lumières à l'aide de la reconnaissance vocale, c'est de régler le réveil de son iPhone à 6h30. Demain sera une longue journée. Mis à part les petits points rouges lumineux signalant l'état de veille de ses ordinateurs, la salle de contrôle souterraine est dans l'obscurité totale. De dessous l'escalier, sa mère lui parle.
« Je t'attends, mon lapin. Ne sois pas trop long. »«
J'arrive, maman. » Le sourire aux lèvres, Brady ferme les yeux. 2 minutes plus tard, il ronfle.